Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Crunch. Ce week-end, demi-finale de Coupe des Champions, Leinster Northampton d'un côté, mais surtout dimanche, Toulouse Harlequins. Les Toulousains vont disputer leur sixième demi-finale de suite, mais pour les Anglais, ce sera une grande première. Alors on va se pencher sur ces Londoniens, quel est l'ADN de ce club, son histoire, ses forces, mais aussi ses faiblesses. Pour en parler aujourd'hui, trois journalistes de l'équipe qui suivent le rugby anglais de près. Antoine Bourlon, Aurélien Bouisset et Guillaume Dufy. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Salut Léa.
Salut Léa.
Crunch, c'est parti. Flexion, liée, jeu. Un numéro 10 demi d'ouverture de l'Angleterre, un pilier gauche rigolo, un centre bulldozer et un maillot original. Voilà comment on pourrait grossièrement résumer l'équipe des Harlequins, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur ce club de Londres. Commençons peut-être par son identité. Aurélien, tu y es allé il y a quelques années. Raconte-nous comment et où sont installés les Harlequins.
Ah oui, j'étais allé faire une interview là, mais bon, ça remonte, c'était en 2016. On m'a confirmé hier quand même que ça n'avait pas bougé depuis. Et ce qui était étonnant, en fait, c'est que leur centre d'entraînement est dans un campus universitaire. Donc, c'est à Guildford, au sud-ouest de Londres, quand même assez loin du centre de Londres, un peu dans la campagne anglaise. Et leurs installations sont un peu datées. Si tu les compares à un club de top 14, en fait, c'est une autre ère, quoi. Donc, ils ont deux terrains à l'entrée d'un campus universitaire. Ils s'entraînent là. Les étudiants passent à côté. Ils jettent à peine un œil. C'était un cadre assez rigolo de se rendre compte qu'il y a des clubs qui fonctionnent encore comme ça.
Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Il y a plein de clubs qui ont des installations incroyables. Tu faisais la comparaison avec le top 14. Tu as l'impression que c'est un autre siècle, le rugby anglais parfois. Je parle des installations.
Et comment on pourrait définir l'ADN de ce club en quelques mots?
C'est compliqué quand même. On peut parler du jeu, si vous voulez. C'est une équipe...
Qui
est un peu comme son maillot, quoi, tout feu, tout flamme, coloré, rigolote, à l'image de Joe Marler, hyper spectaculaire, assez sexy à regarder, mais aussi facile à battre.
Et comment sont perçus les Harlequins par le public anglais ou par les autres clubs?
C'est une équipe qui est quand même assez identifiée, historique, c'est un très vieux club. Et surtout, ce qui fait, notamment pour les étrangers, c'est le fait d'aller jouer quand même à Twickenham, parce que leur stade, c'est du coup le Twickenham Stoop, qui est juste à côté du vrai Twickenham. Donc pour les jeunes joueurs étrangers, ça fait toujours un petit truc d'aller jouer à Twickenham, même si on n'y va pas vraiment. Parce que pour le coup, c'est vraiment un peu pas un grand stade.
C'est 15 000, non ? 15 000 places,
ouais,
à peu près.
C'est vraiment pas.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est un petit stade au tableau Pro D2, quoi. Mais non, sans blague, c'est un. C'est une équipe qui est très identifiée, qui a toujours sorti des joueurs, qui n'a pas un énorme palmarès. Mais hier, je regardais, et en fait, depuis 30 ans, hormis une fois en 2013, ils ont toujours eu un joueur avec les Lions dans les tournées. Pareil, en Coupe du Monde, il y a toujours des joueurs des Harlequins qui sont représentés dans toutes les éditions. Donc c'est un club historique, même s'ils n'ont pas un palmarès, ils n'ont que deux titres, c'est pas terrible.
Ouais, donc ils jouent au Stoop, mais en fait ils délocalisent un ou deux matchs par an au Grand Twickenham juste à côté, et ils arrivent quasiment à le remplir pour ces galas de matchs de championnat en général.
Les Saracens notamment.
Ouais, en fait c'est le club qui est rattaché un peu à la City de Londres, qui a une réputation un peu de poche, comme ils disent là-bas, c'est-à-dire un peu bourgeois, pas un guindé, quoi, un peu snob. C'était les banquiers, les financiers qui, une fois qu'ils avaient rangé l'attaché case, ils partaient s'encanailler à jouer au rugby un petit peu, quoi. Ils lâchaient la violence intérieure qui grandissait toute la journée devant ce bureau où ils s'emmerdaient comme des rats morts.
L'image du banquier d'Aurélien, c'est exceptionnel.
C'est moderne, non?
Oui, ça, c'est moderne, ouais. Pas du tout cliché. Ouais.
Mais d'ailleurs, on parlait de la banlieue sud-ouest de Londres. C'est pas du tout la banlieue comme Watford avec... beaucoup de problèmes, beaucoup de clichés qui l'accompagnent. C'est la banlieue vraiment très verte. Quand j'y étais allé, pas très loin, il y a beaucoup de parcs. Ça joue un peu au golf, pas très loin. C'est la banlieue pavillonnaire de Londres. Quoi.
Toi aussi, tu as tes clichés sur les banquiers, ils jouent au golf et tout ça. Hein, scandaleux.
Je suis entouré de drôles de personnages ce matin, quand même.
Guillaume Dufy joue au golf aussi.
Oui, aussi, ouais, aussi. Je ne suis pas banquier. Non, puis Twickenham, c'est quand même... C'est un nom qui fait rêver tous les rugbymen du monde entier. C'est situé, non, par ailleurs, tout près d'une jolie ville aussi, plutôt riche, sur les bords de la Tamise, Richmond. Voilà, c'est effectivement un quartier très cossu, et c'est pas le club le plus populaire, enfin le plus populaire. Je m'entends, ouais, c'est un club que les gens aisés aiment bien.
Et ils ont quelques grands noms du rugby anglais quand même qui ont joué là-bas, quoi. Jason Leonard, Will Carling, Brian Moore. Il y a eu deux Français, entre autres, quoi, Thierry Lacroix qui a joué là-bas et Laurent Cabane à la fin des années 90. Donc c'est un club qui attire aussi par son environnement et son histoire. Tu disais que c'était un vieux club, mais oui, ça date de 1867, donc ouais. C'est hyper ancien. Hein, comme...
Non, mais ce qui est incroyable, c'est un club dont on parle beaucoup, et comme disait Antoine tout à l'heure, qui gagne très peu finalement.
Oui, petit point sur leur...
Qui gagne très très peu, il y a un palmarès par rapport à d'autres grands clubs anglais, quasi nul, quoi, ridicule.
Oui, sur leur palmarès, donc deux titres de premiership, donc 2012 et 2021, et trois titres en challenge européen, mais ça date 2001, 2004, 2011. Voilà, comment on explique que ce club soit si identifié, si connu, alors que les résultats sont pas terribles?
Moi, je pense que le maillot joue beaucoup. Je trouve que c'est un magnifique maillot qui marque, quoi, voilà, ce côté voilà, multicolore, harlequin. Je pense qu'il marque les esprits. Il marque les esprits. Quand on le voit, on se dit, ce maillot est beau, on a envie de l'acheter. Enfin, je trouve qu'il a quelque chose. Je pense qu'il joue beaucoup. Et puis aussi, ce que disait Aurélien, il y a quand même des grands noms. Carling, il a été quand même un international brillant et charismatique du 15 d'Angleterre. Là, aujourd'hui, on va évidemment parler de Marcus Smith, qu'on est en présence de son hagiographe Antoine Bourlon. Voilà, qui est quelqu'un dont on parle beaucoup, qui est la, aujourd'hui peut-être la star du rugby anglais, même s'il n'a pas encore réussi à s'imposer au sein du 15 de la Rose. Mais c'est, voilà, c'est un personnage, c'est un joueur incroyable. Je pense que les joueurs qui composent cette équipe font aussi beaucoup pour la renommée des Harlequins. On parlait tout à l'heure aussi de Joe Marler, le dingue. On sait tous aujourd'hui où joue Joe Marler.
Même Danny Kerr, hein, qui est une énorme personnalité.
Qui vient de mettre un terme à sa carrière internationale, ouais. Le demi de mêlée.
En passant les 100 sélections, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité. Je pense que les gens s'attachent pas mal aux joueurs qui passent au Harlequins. Il y avait Hugo Monnier avant, qui était pareil, un joueur très identifié, et qui est aujourd'hui consultant pour la télé anglaise. Voilà, il y a toujours eu un peu des joueurs, Kyle Sinclair qui jouait pareil, assez identifié, un beau bébé, et quelqu'un qui a pas peur de parler, et qui est plutôt un bon client pour la presse. Donc,
le futur Toulonnais.
Tout à fait. Et il y a plein de, voilà, il y a toujours eu plein de joueurs ces dernières années qui permettent aux gens de se rattacher au Harlequins, en plus du logo et du maillot.
Bon, avant de parler plus précisément de l'effectif, on va revenir aux dates clés de ce club. 2012, premier titre national de leur histoire. Qu'est-ce que ça a changé pour eux, ce succès?
Ben moi, je dirais pas grand-chose, Léa, parce qu'ils n'ont pas surfé sur la vague, sur ce trophée. Ils ont dû attendre 9 ans avant d'en glaner un deuxième. Et puis, à un moment, l'Angleterre a été, le championnat anglais, ultra dominé par les Saracens, qui ont tout écrasé pendant des années et des années. Et donc, tous les autres étaient un peu dans l'ombre des copains de Wayne Farrell. Donc, finalement, ouais, pas changé grand-chose, quoi. Vraiment rien. Presque.
Non, ça leur a pas donné l'élan que tu disais, quoi. Ils avaient quelques joueurs hyper importants à l'époque, tu vois, comme... Rob Shaw, qui était capitaine de l'équipe d'Angleterre, c'était cette génération-là. Mais ils ont jamais franchi le cap. À l'époque, on les a même jamais vus performer en H-Cup, comme on disait. Donc,
c'est vrai que dans le temps, on disait la H-Cup. Hein,
c'était
vrai.
Bien.
Ouais, sachant que
jadis
sachant qu'il n'y avait pas que les Saracens, en plus, qui avaient réussi à faire le pas, parce que Exeter, qui avait dominé un peu avec un style très particulier, avait réussi à transformer ça en un peu de réussite en Coupe d'Europe, ce qui n'était vraiment pas le cas des Harlequins. Si je dis pas de bêtises, ils ont trois challenges européens et puis c'est tout.
Ouais, le challenge européen. Ouais. Ça compte. Ça compte. Voilà, quand t'as rien, ça compte.
C'est ça.
Ils n'avaient jamais fait mieux que quart de finale en Coupe des Champions. Donc, par rapport à Toulouse, c'est vrai que ça fait un peu.
Mais là, il faut en profiter de la demi-finale parce que je ne suis pas persuadé qu'on les retrouve là l'an prochain ou dans deux ans. Parce que peut-être dans deux ans, on fera un podcast. Vous nous demanderez. Est-ce que les Harlequins ont profité de cette demi-finale? On vous répondra la même chose, non.
Bah, j'espère que tu seras là, Guillaume, pour en parler. Neuf ans plus tard, donc, deuxième titre en 2021, en battant Exeter 40-38 en finale. Sur quoi ils ont construit ce succès-là, Antoine?
Bah, un peu la même chose que ce qu'on a vu contre Bordeaux il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire énormément de jeux, beaucoup d'essais, beaucoup de points encaissés aussi. Et après, là, c'était un peu la preuve que les joueurs qui commençaient à émerger dans cette équipe-là, que ce soit Smith évidemment, c'était l'exemple, mais pouvaient gagner des choses en fait. Parce que souvent avec les jeunes joueurs, c'est toujours la question de se dire est-ce qu'ils sont prêts à gagner et pas seulement prêts à jouer. Et Smith, c'était un peu la réponse absolue à tous les problèmes qui lui avaient été posés. En plus, il met la transformation de la gagne un peu en finale contre Exeter. Donc c'était un peu la confirmation que c'était une vraie bonne génération. Et après, au niveau du jeu, c'était déjà l'équipe feu follet qu'on voit, qui prend beaucoup de risques. Alors quand c'est une équipe qui a beaucoup de magie, donc quand c'est un bon jour, c'est bien. Mais quand la magie opère pas, c'est beaucoup de points encaissés et pas beaucoup inscrits. Donc c'était déjà les bases un peu, sachant qu'il ne faut pas non plus négliger le travail qui est fait devant. Ce n'est pas une équipe non plus... Qui fait que jouer à la balle. Aurélien me parlera très bien du premier centre sud-africain qui est pas un artiste.
Oui, il est un peu léger pour un sud-africain.
mais voilà, c'était un
puis
peu
on a
ça.
Vu les... contre Bordeaux qu'il savait jouer devant aussi.
Voilà, mais c'était une équipe voilà qui envoie du jeu, qui a pas peur de prendre des initiatives. Même c'est plutôt encouragé par le staff, donc et c'est plutôt l'identité du club.
ADN Nick Evans. On en reparlera tout à l'heure.
C'est une équipe qui a un brin de folie aussi. Quoi, parce que le quand ils gagnent le titre en 2021, en demi-finale à Bristol, ils sont menés 28-0 à la mi-temps. Et ils arrivent à renverser la situation en allant aux prolongations, etc. C'était une saison aussi où leur entraîneur avait été débarqué en plein milieu de la saison, Paul Gustard, qui est au Stade français maintenant. Donc ils avaient un peu cette je ne sais pas si c'est ADN, mais cette identité un peu dingue que sur un même match, d'être complètement absent puis de savoir tout renverser, dans les coulisses, pas très stable non plus. Donc c'est un peu de fantaisie, comme leur maillot, comme tu disais très bien.
Exactement. Et je crois qu'en 2021, ils profitent aussi de l'absence des Saracens qui étaient à l'étage inférieur, punis pour une histoire de...
De triche.
Ah bah les Harlequins aussi ont été punis un jour.
Et bien justement...
ça tisse pas mal quand même, hein, vous avez vu.
on y vient. Donc on a parlé de leurs deux titres, mais autre événement marquant de leur histoire, beaucoup moins glorieux par contre, le Bloodgate en 2009. Donc l'histoire en quart de finale de Coupe d'Europe contre le Leinster en fin de match alors que les Harlequins sont menés d'un petit point. Leur trois quarts, Tom Williams sort la bouche en sang. Ce qui permet de faire re-rentrer Nick Evans, qui avait déjà été sorti. C'est le buteur, donc, susceptible de marquer la pénalité ou le drop de la victoire pour son équipe. Un changement tactique déguisé en changement pour blessure. Sauf que c'était du faux sang, de la triche. Quelles ont été les conséquences sur les Harlequins et sur leur réputation ?
Assez grave quand même, parce que Tom Williams, le joueur en question, a écopé d'une grosse suspension qui a été un peu réduite. L'entraîneur Dean Richards, il a eu 3 ans de suspension, lui. Il y a un physio qui a été suspendu aussi.
Médecin, après, à coup de chausson.
Alors, même le docteur, justement, j'allais y revenir, elle a été quand même un peu admonestée par l'ordre des médecins.
C'est joliment dit.
Parce qu'en fait, donc, il y avait des capsules de sang qui glissaient dans la bouche des joueurs ou ailleurs pour les faire saigner, simuler le saignement et leur permettre de sortir et d'être remplacés. Mais quand elle a vu que ça allait être découvert, elle a fait une petite incision dans la lèvre du joueur pour qu'il y ait du vrai sang. Elle dit bah « Non, c'est du vrai sang et tout ». Donc l'ordre des médecins a dit « Quand même, t'es allé un peu loin » et paf, suspension.
Et surtout, je crois qu'il y a d'autres joueurs qui, comme c'est un sport pratiqué par des gentlemen, on dit quelques semaines ou quelques mois après que Williams n'était pas le seul et qu'eux aussi avaient eu...
Ouais, c'était pas la première fois.
On leur avait suggéré d'utiliser ces fameuses capsules utilisées dans le cinéma. Ça fait désordre quand même. C'est une espèce de dopage, entre guillemets, collectif, institutionnel. Donc, pour l'image du club, c'est quand même déplorable.
A priori, ils l'ont utilisé 4 fois. Il y a une enquête qui avait au moins vu 4 utilisations de ce procédé, donc. Et l'un des dirigeants avait démissionné aussi. Bref, c'était allé assez loin. Puis c'était une période assez trouble pour le championnat anglais où plusieurs joueurs de Bath, je crois, avaient été suspendus pour consommation de cocaïne. Donc c'était la fête là, à l'époque. C'était le post-Coupe du Monde 2007.
Ça n'a pas changé le rugby en fait.
Non. À l'époque, ils simulaient...
C'est un sport de tradition, Antoine.
À l'époque, ils simulaient des saignements. Aujourd'hui, il y a des équipes qui simulent des commotions pour faire des changements aussi.
Ouais,
donc,
bien sûr.
C'est la même chose.
Donc on referme la parenthèse du Bloodgate et on passe à 2020. Depuis la crise du Covid, de nombreux clubs anglais font face à de gros problèmes financiers, jusqu'à la faillite. Pour certains, comme les Wasps ou les London Irish, le championnat anglais est passé de 13 à 10 clubs. Comment les Harlequins ont résisté à ça, eux ?
Bah parce qu'ils ont les reins, plutôt solides. Ils font pas n'importe quoi. Quand il y a des joueurs beaucoup trop chers, bah il y a pas de surenchère. Ils s'appuient aussi sur un centre de formation plutôt bon. Ils essayent d'être raisonnables. C'est très compliqué parce qu'ils sont aussi ambitieux et ils ont envie de concurrencer des grosses cylindrées comme les Saracens ou aujourd'hui les Northampton. Enfin, on a vu que Northampton ne faisait pas non plus n'importe quoi en acceptant de lâcher quelqu'un comme Courtney Lowes ou de Ludlam, qui sont deux joueurs encore titulaires aujourd'hui. Mais voilà, les clubs anglais ont compris qu'à un moment, ils devaient lâcher et ne plus... surenchérir sur des joueurs même indispensables. Donc voilà, ils ont gagné en maturité et en gestion. Et on parle de trois clubs. On pense que les Falcons de Newcastle sont aussi dans un état catastrophique et pourraient disparaître. Donc on passe de 10... On pourrait passer de 10 à 9. Donc bonjour la première chip, quoi.
Oui, ils ont quand même quelques soucis d'argent, hein, les Harlequins.
Un peu comme tout le monde, mais moins que les autres, quand même.
Et en 2021, ils ont fait un petit emprunt de 48 millions de pounds.
Non, mais l'emprunt, c'est aussi pour l'emprunt, c'est aussi pour investir, pour garder quelques joueurs. Mais sinon,
Oui, mais
c'est... Et tu ne peux pas faire d'emprunt si tu n'as pas d'argent derrière. Il faut avoir des garanties, quand même. Toi qui es un spécialiste de la banque, on l'a bien vu en début d'émission.
Bah, d'ailleurs, les Harlequins sont détenus par... Enfin, sont gérés par des financiers, banquiers. Pour le coup, c'est plutôt le profil des gens qui dirigent le club. Après, il y a certains joueurs qui en parlaient dans la presse, ou même c'est ce qu'on comprenait, c'est que... À un moment, tous les joueurs de tous les clubs se posaient des questions sur qu'est-ce qui va m'arriver. Et donc, chaque propriétaire, et c'était le cas au Harlequins, ou chaque président, avait pris rendez-vous un peu collectif avec les joueurs pour expliquer quelle serait la marche à suivre. Et les questions des joueurs, c'était de plus en plus précis sur quel est le modèle économique de mon club, et plus juste, est-ce que je vais être payé. Mais comme dans tous les clubs, il y a eu des interrogations. Après, c'est vrai que, comme l'expliquait Guillaume, aujourd'hui... ça va, Marcus Smith a prolongé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est qu'ils peuvent quand même payer des joueurs internationaux avec un nom.
Mais pas 50. Ils sont obligés de faire des choix aujourd'hui.
Mmh. Oui, ils ont des effectifs beaucoup moins larges que les clubs de top 14 notamment.
Et pour parler du présent, maintenant, les Harlequins sont donc dans le dernier carré de la Coupe d'Europe pour la première fois de leur histoire. Avant d'arriver contre Toulouse, ils ont battu Glasgow en 8e de finale et Bordeaux-Bègles en quart. Alors on va présenter cette équipe en commençant par son entraîneur en chef, Danny Wilson. Mais c'est un staff où il y a eu quelques remous quand même dernièrement.
Ouais, ces dernières années, j'ai l'impression que ça a pas mal bougé. Donc ils avaient recruté Tabai Madson, je pense, juste après le titre, qui est resté une saison et ensuite a été quelque peu placardisé. Et après, ça a bougé. Il y a eu un directeur du rugby, Billy Millard, ce coach principal, là, Danny Wilson, qui est arrivé des Tigers. On sent qu'en fait, la stabilité, elle est un cran en dessous dans les adjoints, qui, eux, sont là depuis plus longtemps, qui sont des figures historiques du club, qui ont été des joueurs importants. Que ce soit Nick Evans, dont on a déjà un peu parlé, ou Adam Jones.
Qui s'occupe de l'attaque.
Voilà. Et Adam Jones, l'ancien pilier gallois, qui s'occupe de la mêlée.
Étonnamment.
Voilà.
Et des transitions, j'ai vu ça. Voilà. C'est son poste exact.
À la radio. Voilà. Il fait
des lancements, des transitions.
Même plus récemment, ils ont perdu un membre important de leur staff, Jerry Flannery, qui est l'Irlandais qui vient d'être recruté par le staff des Springboks pour s'occuper de la défense. Donc dans les 2-3 derniers mois, voilà, ça a bougé encore sans cesse ce staff.
Mais ils se sont battus, les dirigeants se sont battus pour garder une personne, Evans, qui a été embauché quelques mois l'an dernier pour bosser avec Steve Borswick, le sélectionneur anglais. Il a bossé sur le premier tournoi destination de Steve Borswick. Et Borswick, lui, était hyper ambitieux, hyper optimiste, était persuadé que Evans... aller rejoindre le staff et préparer la Coupe du Monde. Et les Harlequins ont freiné, ont dit c'est impossible, on perd déjà plein de joueurs pendant ces périodes-là, on est plus fragile que les autres au niveau de notre effectif, il faut absolument qu'Evans reste, et Evans est resté. Voilà. Donc, Evan, c'est un personnage quand même. Antoine, tu, je pense que tu peux le confirmer parce qu'il a un rapport assez particulier, je crois, avec Marcus Smith. Il a quand même transformé ce garçon. C'est un type hyper important et capital dans la philosophie du jeu. Des Harlequins.
Mais il a fait une petite pige d'ailleurs aux Six Nations avec l'Angleterre, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de super important. Et d'ailleurs, beaucoup de, enfin, si Steve Borthwick le voulait absolument, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui prône l'attaque à fond. Ce que Borthwick n'avait pas, enfin, c'était pas l'image du coach qu'il avait, même si ça a plutôt tendance à évoluer ces derniers temps. Mais ouais, Evan, c'est quelqu'un qui, enfin, c'est un néo-zélandais, donc c'est un peu cliché de dire que c'est un 10 néo-zélandais qui attaque à tout va, parce que c'était pas totalement le style de joueur qu'il était. Mais c'est quelqu'un qui prône beaucoup de vitesse, la dépossession, voilà, c'est pas trop son truc, plutôt des relances, de l'initiative, porter le ballon. Et c'est quelqu'un qui a vraiment pris Smith sous son aile. Moi, il me racontait une fois qu'il l'avait vu arriver au premier entraînement et qu'il avait tout de suite vu ce jeune garçon parler aux autres et commander le jeu un peu différemment. Et tout en... c'est quelqu'un aussi de très précis et très protecteur avec lui. Voilà, Smith, c'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup râler, à beaucoup s'exprimer. C'est quelqu'un de très expressif qui fête... voilà, il peut célébrer un essai comme une pénalité sur une mêlée, comme beaucoup d'anglais d'ailleurs, mais Evan, c'est pas...
C'est l'école Ben Earl.
Ouais, voilà, ça peut agacer. Smith, il perdait beaucoup d'énergie au début de sa carrière sur ces choses-là. Et Evan, il a beaucoup travaillé là-dessus tout en... voilà, tout en essayant de maximiser ses qualités, c'est-à-dire jouer proche de la ligne, voilà, et qu'il a jamais voulu le freiner, et c'est un peu le coach qu'il est, voilà, beaucoup d'attaques, bon, il est coach de l'attaque, mais c'est un peu son style, c'est pas du tout restrictif, pas du tout de dépossession, voilà, pour parler de termes dont on a l'habitude.
Et Antoine, je te relance sur Marcus Smith, tu l'as interviewé plusieurs fois, comment il est arrivé au Harlequins?
Bah, en fait, c'est un garçon qui est né en Asie, aux Philippines, parce que sa maman est philippine et son papa qui est anglais était parti travailler en Asie. Après, il a fait toute son enfance, sa petite enfance à Singapour. Il a commencé le rugby, un peu le monde du rugby des expats à Singapour. Il allait voir les tournois de Seven aussi à Hong Kong. Donc il a commencé le rugby là-bas et après la famille est rentrée à Brighton dont le papa est originaire. Et lui, bah, il a commencé le rugby chez lui à Brighton, il a commencé à faire des tournois, il a joué au collège dans le système anglais très traditionnel.
Super footeux aussi, hein.
Ouais,
super
joueur de foot. Il avait fait des tests avec Tottenham, bon, super joueur de foot, pas assez bon pour...
Non, mais quand tu fais un test, enfin moi je joue au foot, j'avais fait un test au
à PSG, Tottenham.
Non, au Tottenham, donc voilà. Voilà. Donc à mon avis, pour ouvrir les portes, il faut quand même avoir un petit niveau.
C'est un garçon qui a fait plein de choses dans sa vie. Qui a aussi fait du cricket. Lui, il pense que ça l'a aidé à bien manier le ballon. Il a deux frères et il faisait aussi de la musique. Voilà, le rêve de leur mère, c'était qu'ils reforment les Jonas Brothers à trois. Bon, ça n'a pas trop marché. Mais voilà, et donc, vite repéré par les Harlequins. Pour le coup, sur l'aspect rugby, c'est assez classique. C'était un bon joueur de 7 quand il était jeune, comme le joueur qu'il est aujourd'hui, des pas de loi, beaucoup de vitesse. Son défaut, c'est un peu le jeu au pied, mais bon, à 7, pas besoin de jouer au pied trop. Donc voilà.
Il a progressé beaucoup, hein, quand même. Ouais. Il a passé un cap.
Petit gabarit, avec beaucoup de tonus et de vivacité. Et les Harlequins le repèrent et il l'intègre rapidement au centre de formation. Et c'est quelqu'un qu'ils ont rapidement aussi fait basculer dans le monde pro parce qu'il s'est entraîné hyper vite avec les pros. Et Danny Kerr aussi l'avait vite pris sous son aile, Joe Marler aussi. C'est des garçons qui ont pas mal de personnalité, lui aussi, qui a pas peur de s'imposer, de parler. Donc voilà, c'est un peu son histoire au Harlequins.
Et si vous voulez le connaître bien mieux, vous le suivez sur Instagram et vous saurez tout de sa vie, de ses lieux de vacances, de ses loisirs, de son amour du golf aussi. Voilà.
On y revient.
Non, mais c'est un joueur. Il a quelque chose de nouveau un peu dans le paysage feutré du rugby. Anglais, il est très expansif sur le terrain et en dehors aussi. Voilà, c'est un garçon de son temps qui est très très présent sur les réseaux sociaux, adorable, pas facile à gérer, qui a du caractère, qui ne s'est pas encore imposé en équipe d'Angleterre parce que Borthwick, jusqu'à pas très longtemps, lui préférait évidemment Wayne Farrell ou George Ford. Des gens un peu plus classiques, voilà, dans le jeu. Mais là, malheureusement, pour entamer le tournoi, il était blessé. Mais mes confrères anglais qui suivent de manière assidue la sélection anglaise étaient persuadés que Smith aurait débuté ce tournoi. avec un changement de philosophie du 15 de la Rose s'il n'avait pas été blessé. Mais bon, voilà, c'est un joueur assez incroyable qui a des... Tu parlais de sa vitesse, il a des appuis...
Ouais, puis des petits hallucinants, des inspirations, des libertés, des coups qui jouent un peu seul.
Il a un côté Jalibert, je trouve, dans sa manière de gérer le jeu, numéro 10. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est pas un numéro 10.
Distributeur classique.
Classique, oui, voilà.
C'est sûr. Puis c'est un joueur qui se cache pas, en fait. Nick Evans, il m'avait dit ça. Et, Smith, il s'était pas encore vraiment imposé. Il disait, moi, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un joueur qui, en fait, s'il y a deux minutes de la fin, il n'a pas les mains qui tremblent pour attraper le ballon, pour tenter des choses. C'est quelqu'un qui aime jouer très proche de la ligne, qui n'a pas peur du contact. Il fait beaucoup de passes vraiment au cordeau pour quelqu'un qui arrive lancé. Voilà. Et après, comme le disait Guillaume, c'est que c'est quelqu'un de vraiment intéressant pour les gens. Il est de cette génération où tout le monde est fan absolu de Johnny Wilkinson, lui aussi. Mais ses inspirations, c'est aussi Manny Pacquiao, du fait de ses origines aux Philippines. Il adore Fred Michalak. Voilà, c'est quelqu'un qui a plein de
connaissances. Tu vas finir au Racing, lui.
Ouais, pour l'instant, il est mieux hors le Queens, il a prolongé.
Je sais. Mais on a entendu son nom l'an dernier comme un possible joueur anglais venant renforcer notre magnifique top 14.
Parmi les autres joueurs importants de l'effectif, on peut parler du centre André Esterhuizen. Comme il est sud-africain, je me tourne vers toi, Aurélien.
J'en souris.
Qu'est-ce que tu veux dire de
Aurélien, c'est la banque et les Sud-Africains.
Voilà. Exactement. À peu près. D'autres choses aussi, mais surtout ça.
Qu'est-ce que je peux dire sur lui? Ah bah c'est déjà à son poste, c'est un gabarit assez sympathique, utile quoi. 1m95, 115 kilos.
Ouais. Quand Smith est en galère, il aime bien lui donner la balle, quoi, par exemple.
Ouais. Je pense qu'il est large comme deux Marcus Smith. Quoi. Et si tu mets Danny Kerr sur les épaules de Marcus Smith, t'as à peu près la taille d'André. Non, c'est un... Je me souviens l'avoir croisé pas mal de fois pendant la Coupe du Monde avec le squad des Springboks. Et je me disais, mais il est monstrueux, quoi, physiquement. Il est trois fois plus épais que tout le monde.
C'est la deuxième ligne, hein.
Petit deuxième ligne, un bon costaud troisième ligne. Il pourrait jouer 8, quoi, c'est sûr. Mais bon, il n'est pas maladroit non plus. Donc, il l'utilise forcément pour fixer le milieu de terrain, mais pas que pour sa présence physique, quoi. Chez les Bucks, il n'est pas dans le 15 de départ, mais il n'en est jamais très loin non plus. C'est un de leurs joueurs qui peuvent faire une différence, ouais, sur un match comme ça.
Mais il faut en profiter parce qu'il part, il s'en va.
Il revient chez lui.
Voilà.
Aux Sharks de Turpin.
Même si Toulon, visiblement, a essayé. Enfin, comme Toulon, enfin, certains clubs français essayent de recruter 75 joueurs. Donc Toulon a essayé. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il joue avec un gamin au centre, avec Oscar Bird, 21 ans, aussi grand espoir du rugby anglais. Et leur association fonctionne... admirablement bien.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu parce que tout le monde se pose la question de Smith en Angleterre. Il y avait beaucoup de débats et de questions sur l'association entre Smith en 10 et Farrell au centre. Et le profil qui semble plus correspondre à son jeu, c'est d'avoir un 12 qui est plus perforant, plus sécurisant. C'est plutôt avec ballon, en fait. C'est d'avoir une soupape de sécurité de pouvoir donner à son centre. Et là-dessus, il y a Ollie Lawrence, notamment au centre, en équipe d'Angleterre, qui commence à faire son trou. Et c'est vrai que sur les profils compatibles qui peuvent ensuite aller avec Smith en équipe d'Angleterre, c'est un bon exemple du profil type qui peut correspondre.
Mais là, on parle des trois quarts depuis tout à l'heure, mais le match contre l'UBB, Bordeaux a quand même pris une leçon en mêlée, une leçon dans les mauls. Et tu en grimaces, je sais, je suis désolé de remuer le couteau dans la plaie, mais le pack des Queens, ça fait quand même de gros progrès. Et ils ont 5-6 joueurs de très très haut niveau. La première ligne commence à être pas mal du tout. Donc, on parlait de Will Collier tout à l'heure, le droitier, qui est un droitier d'expérience qu'on va bientôt voir dans le top 14.
Il a signé à Castres.
À gauche, ils ont Joe Marler, qu'on connaît tous, mais le
film... Il sera là, hein, parce qu'il n'était pas là contre l'UBB.
En fait, c'est que le Finn Baxter, il commence à prendre sa place. Ouais. C'est le jeune gaucher qui monte et qui a un peu tordu Tamei Funa en mêlée en quart de finale. Sans doute futur international anglais aussi. Donc,
il était dans la liste.
de Borswick. Ça commence à se densifier. Et la troisième ligne, je laisse en parler Guillaume, mais bah, la troisième ligne est pas mal du tout.
La troisième ligne, il y a un Anglais, Vance, un autre Anglais, Dombrandt, numéro 8, costaud, international.
Qui va vite aussi.
Qui va vite. Enfin, on pensait quand Borswick est arrivé qu'il allait s'installer au poste de numéro 8. Et puis finalement, non, il n'a pas réussi. Là, il est revenu pour le tournoi. Et puis, il y a Cam South, un gamin de 20 ans qui a disputé la dernière Coupe du Monde des U20, qui a pris une fessée contre les Anglais, mais qui est monstrueux, quoi. Ouais, et là, il est entré en jeu sur tous les matchs du tournoi Destination, et à chaque fois, il fait des différences. Donc, la troisième ligne est impressionnante. Après, tu parlais de la mêlée et de l'UBB qui s'est fait tordre devant. C'est quand même une surprise, parce que régulièrement, les gens qui suivent la première chip te disent que la première ligne et deuxième ligne anglaise de Fader Lewins, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Ils ont progressé. Ils sont capables de faire un truc, quoi, devant.
Ouais, c'est un peu le point d'interrogation pour ce week-end aussi, quoi. C'est est-ce qu'ils seront capables de reproduire la même performance avec leur paquet d'avant. Mais bon, ils ont quand même quelques mecs qui sortent de l'ordinaire et qui, peut-être, à court moyen terme, leur donneront plus de stabilité dans ce qui n'était pas leur point fort sur le terrain.
Non, mais ils ont quand même créé, même si Bordeaux était privé de Penaud, notamment sur ce match, ils ont quand même créé une énorme sensation.
Et Jalibert.
Jalibert, ils ont quand même créé une énorme sensation. Les gens qui parient ont dû mettre beaucoup d'argent sur l'UBB et doivent aujourd'hui...
Mettre beaucoup d'argent sur Toulouse,
c'est ça que Toulouse, tu veux dire? Oui, à mon avis. Enfin, moi, si j'étais riche, je mettrais beaucoup d'argent sur Toulouse.
Tu ne vas pas gagner beaucoup.
Non.
Donc, parlons du match contre Toulouse. La Coupe d'Europe, elle a quelle importance pour ce club des Harlequins?
Je pense que déjà pour eux, au-delà de la satisfaction d'être pour la première fois en demi-finale, c'est un peu la validation de leur projet de jeu qui est là depuis quelques années. Déjà, on l'a expliqué avec notamment le titre. Il y a plusieurs courants dans le rugby, plus ou moins restrictifs, et eux, ils font le choix toujours d'envoyer du jeu, beaucoup de relances, tout ça articulé autour de joueurs un peu feu follet. On parlait Smith, mais il y a aussi Danny Kerr qui est un neuf qui envoie beaucoup de jeux très explosifs. Donc c'est ça. Et puis en championnat, cette année, ils sont au milieu de tableau. Ils sont encore dans la course aux phases finales. Mais c'est quand même quelque chose de bon à jouer pour eux. Mais ouais, je pense que c'est surtout la validation que ça va dans le bon sens, que des joueurs se développent. On parlait de Dombrandt, qui est encore jeune, et d'autres, même le triangle arrière, c'est pas des joueurs méga expérimentés. Donc voilà, après je sais pas s'ils se font beaucoup d'illusions sur leur match à Toulouse, mais
ils s'en faisaient pas beaucoup déjà avant le match à Chaban-Delmas. Donc là c'est la cerise sur le gâteau. Ils sont quand même très heureux d'être là, presque surpris je crois d'être là, parce que ils étaient pas programmés et ils ont pas non plus l'effectif pour jouer sur les deux tableaux. On peut regarder avec précision leur stat en première chip. Alors ils ont la sixième attaque et la troisième moins bonne défense.
Bon, il y a que 10 équipes, mais c'est vrai que c'est révélateur, quoi.
C'est révélateur quand même.
Puis ils prennent souvent des énormes cartons.
Ouais.
C'est une équipe qui encaisse énormément de points. Et donc du coup, c'est un peu... si les Harlequins ne se mettent pas 45 points dans un match, parfois c'est dur de gagner le match, quoi.
Alors et là je pense contre Toulouse, ce sera quand même difficile d'en mettre 45. Donc il faudra défendre un peu plus fort.
Ça me rappelle la configuration de la phase de poule, parce que je crois que la première journée, ils tapent le Racing en banlieue parisienne. À plus de 30 points de chaque côté.
Hallucinant, ouais.
Tu te dis que la semaine d'après, ils vont peut-être un peu titiller Toulouse, qu'ils reçoivent chez eux. Paf, ils en prennent 45, limite 50.
Ouais, 47-19.
Voilà. Donc ça, c'est un peu le même truc, quoi. Ils ont battu l'UBB à la surprise générale sur un gros score.
Puis ils ont tendance à faire pas mal d'erreurs qui mènent à des essais en contre. Mais comme plein d'équipes joueuses, en fait, plus vous prenez de risques, plus il y a de risques de se faire contrer. Comme je disais, c'est une équipe qui peut vraiment exploser. Et c'est un peu le risque face à Toulouse, quoi.
Encore une fois, ça se voit dans les stats, mais quand elle a le ballon, elle est passionnante, intéressante, dangereuse, mais quand elle n'a pas le ballon, elle est très friable, elle n'a pas le pouvoir et la qualité défensive d'une équipe comme le Stade Toulousain.
Même s'ils ont cette année la carotte de peut-être jouer la finale, parce que la finale sera au stade de Tottenham. Ça ne va pas changer grand-chose, je crois.
Tu devrais peut-être leur rappeler pour qu'ils se motivent encore un peu.
Que Marcus
plus.
Smith a fait des tests à Tottenham et voilà. Tu peux boucler la boucle.
Le papier est déjà prêt.
On verra ça donc dimanche, coup d'envoi du match à 16h. Merci messieurs d'avoir été dans le Crunch cette semaine. J'étais avec Guillaume Dufy, Antoine Bourlon et Aurélien Bouisset. Merci à Mathis Rouanet pour l'enregistrement. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous lire, nous écouter sur l'équipe.fr. Bonne semaine à tous. Salut.